À l'écoute de l'Italie,
une émission de l'association INIS Italie Nord-Isère.
Le troisième ou dernier lundi du mois à 20h.
Rediffusion le jeudi suivant à 18h et le dimanche suivant à 10h.
Actualité et tradition.
Chansons et gastronomie.
Bonsoir, bonsoir Laurent, bonsoir Serge, Nadéan Dinis qui vient participer à nos émissions de temps en temps. Il avait, la dernière fois, je crois que tu nous avais présenté
la
le directeur d'un...
De l'Institut de la Résistance.
L'Institut de la Résistance.
Et un résistant.
De Turin, c'est ça.
Résistant royaliste.
Voilà, ben le lien est finalement relativement vite et facile à faire. Puisque dans les derniers jours du mois d'avril, on a eu le 25 avril la fête, une fête nationale en Italie comme chaque année, qui est en fait la fête dite de la libération ou précisément de la résistance. Alors en fait, qu'est-ce qu'elle commémore ? Elle commémore le 25 avril 1945, de toute façon on en parlera tout à l'heure avec toi, en fin d'émission sans doute, qui, on peut dire, mais là vraiment en résumé, a été la fête qui, enfin le 25 avril était un moment de libération et du joug fasciste et du nazisme, avec des décalages de jours, mais on le verra tout à l'heure. Et en fait, cette commémoration du 25 avril 1945, bien sûr, la première année, c'est-à-dire le 25 avril 1946, elle a déjà été commémorée, mais elle a été réellement considérée comme fête nationale au niveau de loi le 27 mai 1949. Et elle a été considérée à partir de là comme un jour férié.
Après la Constitution.
Absolument. Alors, cette fête de la libération de la résistance, ce n'est pas la seule qui est considérée comme fête nationale chez nos amis italiens, puisqu'il y a aussi la fête du 2 juin. La fête du 2 juin, qui est la fête qu'on pourrait appeler la fête de la République. Pourquoi ? Parce que le 2 et 3 juin 1946, après le gouvernement provisoire, les Italiens eurent à se prononcer par référendum sur le choix entre monarchie ou République, puisqu'il y avait la Maison de Savoie à l'époque. Et donc tout ça après la chute du fascisme. Et le résultat du référendum a fait que la République a été choisie et les monarques de Savoie ont dû s'exiler. Alors le 2 juin, donc, puisque c'est la première date du référendum, le premier jour du référendum, se célèbre donc maintenant toutes les années comme fête nationale, puisqu'on commémore en fait la naissance de la République, avec des fêtes qui ressemblent beaucoup à celles qu'on peut avoir ici.
14 juillet.
Au 14 juillet.
Donc il y a deux fêtes nationales.
Voilà, tout à fait. Alors, c'est des fêtes similaires, comme tu le dis, à celles du 14 juillet, avec des parades militaires, des invités, avec des invités italiens et étrangers, etc. Tout est calculé, calqué à peu près de la même manière. Cette fête, en 1977, il y avait eu une modification parce que, comme on était déjà, comme quoi tout ça n'est pas nouveau, en période de crise économique, il avait été décidé par le gouvernement italien de l'époque de ne pas la commémorer le jour même, c'est-à-dire le 2 juin, mais le dimanche suivant.
C'est comme la fête.
Ou le premier dimanche de juin, plutôt.
Comme la fête des serpents.
Voilà. Quelquefois, elle tombait. Le 2 juin pouvait tomber un dimanche, mais là, en la décidant chaque fois un dimanche, en fait, il n'y avait plus de jour férié à accorder, quoi, hein, tout simplement. Mais en 2000, M. Ciampi, qui avait été président de la République, a rétabli les festivités le 2 juin, et maintenant, elle est vraiment tous les 2 juin, quel que soit le jour où tombe le 2 juin, quel que soit le jour de la semaine. Alors, il y a eu deux exceptions de non-festives, on va dire. C'est en 1963, parce que le pape Jean XXIII était mourant. Donc, par respect pour lui, il n'y a pas eu de festivité. Et en 1976, il y avait eu un gros tremblement de terre dans le Frioul. Et là aussi, pour respecter toutes les victimes du tremblement de terre, la fête n'a pas eu lieu. En 2012, après le tremblement de terre d'Émilie-Romagne, d'Émilie plus précisément, la fête a été maintenue, mais elle a été dédiée aux victimes du tremblement de terre. Alors, puisqu'on parle de fête, vous allez me dire, mais pourquoi cette transition ? Je voulais vous parler d'un violoniste et compositeur piémontais, Giovanni Battista Viotti, qui est peu connu en France, un peu en Italie, et vous verrez qu'il a réalisé quelque chose d'assez intéressant. Alors, qui était ce monsieur Giovanni Battista Viotti ? C'était un compositeur qui était né dans la région de Vercelli en 1755, exactement à Fontanetto Po, et qui, à cette époque-là, cette région faisait partie du royaume de Sardaigne. Il a fait des études musicales à Turin, puis il a habité à Paris. Il a même été musicien de cour de Marie-Antoinette. Alors, quand on commence à réfléchir à l'époque, on commence peut-être à voir venir ce qui a pu se passer derrière. Et donc ce monsieur a fait plusieurs compositions, puis il se trouve que l'année dernière, on a voulu, avec un orchestre, retravailler ses œuvres et les faire enregistrer par un orchestre symphonique. Et on a remarqué quelque chose d'assez troublant.
De connu.
Finalement va sans doute vous rappeler quelque chose. Et l'œuvre dont on va écouter un morceau, on va dire, qui s'appelle « Thème et variations en do majeur », a été, et il faut bien retenir la date, elle a été réalisée, écrite par ce monsieur Giovanni Battista Viotti en 1781. Alors je vous tiens un petit peu en haleine, mais on va écouter quelques brins de ce morceau. Voilà, alors on pourrait écouter encore un bon moment. Bon, je suppose que vous avez reconnu le morceau, qui est en France relativement connu. En fait...
Paroles et musique.
Paroles et musique, là, évidemment, ce n'est que la musique. En fait, notre ami Claude Roger de Lille, a composé ce qui devait devenir plus tard l'hymne national en 1792.
81, c'est, tout à l'heure.
Et à l'heure, tu as bien suivi, en 81. Donc, ce qui veut dire que c'était 11 ans plus tard. Alors, c'est du plagiat, c'est pas du plagiat, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai. L'œuvre originale, ça, c'est sûr qu'il est prouvé qu'elle est réelle. En fait, quand on lui a demandé en 1792 à Roger de Lille, on lui a fait une sorte de commande et il a fait les 6 premiers couplets de ce qui est plus tard, donc encore une fois, devenait la Marseillaise. Il l'a donc écrit en 1792 pour l'armée du Rhin à la suite de la déclaration de la guerre de la France à l'Autriche. Et il l'aurait composé en une nuit. Alors je passe, la Marseillaise a été déclarée chant national en 1795, et puis elle a été abandonnée, et puis elle est repartie. L'officialisation a été en 1879. Enfin, ce n'est pas vraiment notre sujet. Le sujet, c'est ce fameux décalage de 11 ans et cette musique de Viotti, donc, personne ne parle, en fait. Alors, Roger de Lille, si on se réfère à l'histoire, il a bien signé les paroles, mais on n'avait aucune indication sur la musique. Il faut le reconnaître, signé. Il ne s'est pas signé comme auteur de la musique. Mais s'il a fait ça si rapidement, c'est que la musique, il l'avait sous la main, et visiblement pas très loin, puisque, alors, ironie du sort, comme je le disais, Viotti était donc musicien à la cour de Marie-Antoinette.
C'est responsable du plagiat, mais pas coupable.
Voilà, donc pas coupable. Responsable, mais pas coupable. C'est une formule qui est venue souvent après. Voilà, bon, c'était un petit clin d'œil, mais c'est intéressant... À savoir. Alors toi, puisqu'on parle d'anniversaire, tu voulais nous parler toi aussi d'un événement...
Qui s'est passé le 6 avril 2009 dans les Abruzzes. Le 6 avril 2009 à 3h32, il s'agit du tremblement de terre de l'Aquila. Alors j'ai voulu y revenir parce que j'étais allé dans les Abruzzes préparer le voyage de l'Inis en 2011. Et c'est vrai qu'à l'époque, il y avait une vision d'apocalypse, encore 2 ans après. Donc là, la question que je me suis posée, c'est l'Aquila, 5 ans après, qu'en est-il ? Et nous avons préparé l'émission, et tout à l'heure, nous allons avoir une interview d'une personne qui habite à Barisciano, qui est dans la zone la plus touchée. Et donc interview par téléphone que l'on va faire.
Qu'il faut préciser, une interview en direct.
C'est
une interview non enregistrée avec tous les aléas que cela peut comporter, mais en principe couleur FM 97.1 a l'habitude de faire des miracles.
C'est le moment.
C'est son jeu de mots. Hein. Ce n'est pas une récente canonisation qui me le fait dire.
Donc, quelques mots auparavant donc, de ce tremblement de terre. La ville la plus touchée est l'Aquila. Le bilan définitif était de 308 morts. La secousse principale avait une magnitude de 6,3. Donc, ça s'est senti un petit peu jusqu'à Rome, qui est distant de 110 à 120 km/h. Et c'est le
Oui, m'en avait compris. C'est l'habitué du cyclisme qui te fait parler ça.
C'est le tremblement de terre en Italie le plus grave depuis celui d'Irpinia en 1980, où il y avait eu 3 000 morts. Voilà. Donc, on va s'attacher à savoir qu'est-ce qui s'est passé depuis ce tremblement de terre. Donc une rapide présentation de l'Aquila. Donc l'Aquila, c'était 72 000 habitants, la capitale administrative des Abruzzes, une région sauvage et montagneuse, ville universitaire et surtout, cité médiévale avec de nombreux édifices historiques. Et donc l'Aquila était riche d'un patrimoine important. Alors je dis était, c'est peut-être un peu trop tôt pour dire était, mais enfin... Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose de reconstruit. Donc c'est une ville qui est à 700 mètres d'altitude, non loin du grand Sasso, qui est la grande montagne des Apennins, qui fait 2900 mètres. Et l'Aquila tire ses revenus essentiellement du tourisme, puisque les Abruzzes sont constitués d'agriculture et de tourisme, avec autour de l'Aquila 3 ou 4 grands parcs nationaux et régionaux. Les Abruzzes, c'est une région à l'activité sismique soutenue. La ville a déjà connu plusieurs séismes, dont un en 1703 qui l'avait presque entièrement détruite et l'a tué plusieurs milliers d'habitants. Donc voilà pour le cadre, général.
La partie historique qui avait fait au début, c'était sous le règne d'un personnage illustre dont on a malheureusement trop souvent parlé.
On a perdu le nom d'ailleurs.
Maintenant il travaille dans les maisons de retraite.
Oui.
Et puisqu'il est...
des travaux d'intérêt général.
Il doit faire des travaux d'intérêt général, monsieur SB. Et il avait ce patrimoine historique, il le balayait quasi d'un revers de main quand il voulait faire des projets futurs. Et à l'époque on avait beaucoup parlé, mais il fallait le rementionner quand même.
Donc dans les heures qui ont suivi, il y a eu 256 autres secousses, comme c'est un peu généralement le cas, mais il n'y a pas eu de répliques importantes puisqu'elles n'ont pas dépassé 5 sur l'échelle de Richter et il n'y a pas eu de nouvelles victimes. Les recherches pour les personnes vivantes, c'est-à-dire le sauvetage s'est arrêté 2 jours après. Et elles se sont bien sûr poursuivies les jours suivants pour trouver les morts. Alors le bilan matériel, il y avait à l'époque environ 40 000 bâtiments détruits ou emménagés et surtout 70 000 personnes sinistrées ou à reloger. Donc très rapidement, une grande partie, en gros 50 000 bâtiments ont été diagnostiqués sans risque et les gens ont pu rentrer chez eux en grande partie, mais il reste énormément de gens dans des maisons, enfin des appartements provisoires construits à la hâte. On peut évoquer en chanson le
tout à fait.
Alors, tremblement de terre.
Absolument. Alors, peu de temps après, la chanteuse Erika Boschiaro, que tous nos adhérents, sympathisants et autres personnes de Nord-Isère ont eu la chance de voir l'an dernier à Bourgoin, puisqu'on l'avait invitée pour la soirée des femmes. Erika Boschiaro, peu de temps après ce tremblement de terre, et très frappée par ce tremblement de terre, avait écrit une chanson qui s'appelle précisément 3:32, ce qui veut dire 3h32, comme le soulignait Serge, qui est l'heure du tremblement de terre. Alors, elle raconte là notamment la vie et la mort, malheureusement, de Giuseppe Antonacci, qui avait 87 ans au moment de ce drame, donc de la nuit du 5 au 6 avril 2009, qui n'avait pas voulu, elle, abandonner sa maison parce que c'était une maison qui était son nid. Et c'est où elle avait vécu tout le temps, une vie de paysanne. Elle avait élevé 5 enfants et depuis 1974, elle ne pouvait même pas compter sur l'aide de son mari qui était décédé donc 25 ans avant ce tremblement, 35 ans avant ce tremblement de terre. Donc elle a voulu rester dans cette maison, elle n'a pas voulu l'abandonner et malheureusement, elle y est décédée. Alors la chanson de Erika, en italien bien sûr, commence ainsi. « Moi, par ma fenêtre, je me perds dans le soir et gère du regard par-dessus les toits de mousse et de vieilles tuiles. Que de tendresse pour un cerisier en fleurs qui cette nuit revêt la même couleur que la lune. La lune croît et le vent avec elle. Je referme la fenêtre et chaque recoin de cette vieille chambre murmure que tu es là. Une prière au ciel, une sur ta photo, et je m'endors doucement comme alors, moi qui étais ton épouse. Mais le vent des grottes descend ensuite sous terre et un frisson de froid la soulève durant un instant qui est une éternité. Tout est sans dessus dessous et j'ignore si le mal que je ressens maintenant est hors de moi ou en moi. Peu à peu, il s'estompe et je te vois à mes côtés. Dans ce qui était un lit, je regarde là-haut, la lune immobile et le cerisier qui est demeuré intact et m'observe, en train de te rejoindre tout là-haut. » Alors le texte que je vous ai donné en français avait été, comme toutes les chansons du spectacle, traduit par nos groupes de cours d'italien et celui-là était traduit par le cours de Guy Despréaux. Donc on va écouter 3:32, 3h32, par Erika Boschiero. Erika Boschiero, donc, dans cette chanson très trentadue. La traduction, puisque tu y avais participé, oui. A été difficile ?
Non, ça a été... Ça a
Parce que pas toujours facile, hein,
oui, traduire c'est des, poétique, des chansons, oui, c'est là, difficile, c'est, oui, c'est plus dur que les articles de journaux.
Voilà. Bien, alors, Serge, je crois que tu as...
Alors, nous sommes en ligne avec Lina. Lina, bonjour.
Bonjour.
Alors, Lina, c'est formidable.
Bravo aux
techniciens. Merci bien d'être en ligne. Bravo aux techniciens à nouveau. Lina, vous habitez à Barrichiano. C'est donc
si.
Dans le cœur de... C'est là où il y a eu les plus gros dégâts.
Oui, à une vingtaine de kilomètres.
À vingtaine de kilomètres au sud-est de l'Aquila. Et vous, dans votre famille, il y a eu des blessés, éventuellement des morts ?
Non, il y a eu deux, trois, quelques blessés, mais non. Non. À 5 minutes d'ici, oui, mais pas à Barichia, non.
D'accord. Et votre les maisons à Barichia, ou peut-être même dans les autres villages, les maisons qui ont été détruites, est-ce que c'est plutôt les bâtiments neufs ou les bâtiments anciens ?
Plus anciens. Par exemple, la mienne, elle est dans le centre... Disons le centre historique, et la mienne par exemple, elle a été très très abîmée. C'est le quartier qui a été le plus abîmé.
Et vous êtes j'imagine que vous avez été sorti de votre maison, vous avez été dans un logement temporaire.
Je suis partie parce que j'avais une autre maison. Je suis partie dans un village à côté, que la maison n'était pas trop abîmée.
D'accord.
Et en plus, après, à Barichan, ils m'ont donné une petite maison provisoire.
D'accord. Et, oui. Aujourd'hui, 5 ans après, ça en est où ?
Alors, ici, à Barichan, ils ont déjà commencé à faire rentrer les personnes. Certaines maisons, ils sont en train de les réparer. Par contre, la mienne, qui est vraiment au centre historique, il faudra plus de temps. Et comme à l'Aquila, le centre d'Aquila, c'est historique, ils n'ont pas encore commencé. Ils ont commencé à la périphérie.
D'accord.
En banlieue.
D'une manière générale, moi j'y suis allé, c'était en novembre 2011, dans la région de l'Aquila.
Oui.
Et c'est vrai qu'il y avait encore beaucoup de zones interdites dans les villages. Dans les villages, beaucoup de maisons étaient consolidées avec des gros morceaux de bois. Y a-t-il toujours des zones interdites dans les villages, interdites de circulation ?
Alors, le centre de l'Aquila, oui, le centre de l'Aquila, le centre n'est pas accessible aux véhicules, hein, le centre. Par contre, la périphérie, oui, on peut bien circuler.
D'accord.
Parce que là, déjà, la reconstruction en banlieue s'est faite déjà plus rapidement.
L'Aquila et la région des Abruzzes en général vivent beaucoup du tourisme. Est-ce qu'il y a eu une diminution du tourisme après 2009 ?
Oui, bien sûr. Non, bien sûr. Il y a eu, des gens qui sont venus pour voir l'Aquila, plus par curiosité.
Voilà, de curiosité. Mais des séjours importants, il y en a eu moins.
Oui, le tourisme, il en a pris un coup quand même, hein, parce que l'Aquila, c'était la 7e plus importante comme ville
destination touristique, oui.
Disons comme monument artistique.
Et dans la vie de tous les jours, le tremblement de terre est-il toujours un sujet de conversation qui revient souvent, ou est-ce que ça
s'est... Si, beaucoup, ça revient très souvent. Les gens qui veulent repartir dans leur maison, en plus, il y a quand même, je ne dis pas des jalousies, mais bon, les maisons qu'ils ont commencé à les faire avant...
Il faut bien commencer par une.
Celui qui est rentré dans la maison, celui qui n'est pas rentré, bon, surtout maintenant, les gens qui souffrent beaucoup, c'est ceux qui étaient dans le centre de l'Aquila. Il faudra beaucoup d'années pour que... Parce que ici, la bureaucratie, déjà, en Italie, est plus lente que chez nous, quoi. Donc, il y a des problèmes.
D'accord. Oui, c'est vrai que les gens qui voient les gens qui sont toujours dehors et qui voient en rentrer d'autres, ça doit...
Parce que ça, c'est sûr, beaucoup de gens disent, mais nous, surtout les personnes âgées, nous allons mourir et nous n'allons pas revoir notre maison refaite. Je me mets à leur place. Oui. Nous sommes encore un peu plus jeunes, disons. Nous avons de l'espoir.
Oui, bonjour, c'est Alain. Est-ce que vous sentez une peur encore dans le village ou les villages environnants, des gens qui ont peur d'un nouveau tremblement de terre ou c'est complètement évacué à ce niveau-là?
Bon, il y en a, hein. Il y en a qui ont encore peur, mais bon, bah, je pense que moins qu'avant, parce que disons que disons qu'au début il y avait plus même les secousses, tandis que maintenant ça c'est bien, disons.
Ouais, la période est passée, quoi.
Il y a moins de peur, mais si au début il y en avait beaucoup de peur. Certaines ne veulent pas retourner, même si on leur met leur maison, disons, on leur arrange leur maison parce que.
Oui, ils ont peur que ça s'écroule.
Et donc oui, moi j'ai une amie par exemple, elle ne retournera jamais dans sa maison, même si un jour ils la referont.
On voit sur Internet des bâtiments provisoires qui sont dégradés. Est-ce que ça, c'est des cas ponctuels ou bien alors, de par les conversations de tous les jours, vous savez que c'est un cas général que les bâtiments provisoires sont dans un état actuellement lamentable 5 ans après ?
Je ne sais pas vous dire. Je ne sais pas, mais vous parlez vraiment du centre de la Cula.
Non, je pensais sur les bâtiments qui ont été reconstruits après. Les bâtiments, les logements provisoires.
Ceux qui ont été reconstruits.
Oui, oui. Comme ça a été vite fait, on voit sur Internet des poteaux qui sont entamés.
Effectivement, c'est arrivé parce que bon. Comme on dit, si c'est fait trop rapidement, c'est sûr.
Ça, c'est évident. Hein.
Oui, parce que comme on dit, si moi je vois même les où l'on nous a mis ici, même dans les maisons qui sont provisoires, elles ont été construites vraiment d'une rapidité. Donc c'est normal, une maison qui est construite.
Oui, elle peut pas tenir longtemps.
Ça, c'est sûr.
Et est-ce que maintenant, il y a des bâtiments provisoires qui sont vides parce que les habitants sont relogés ?
Je ne sais pas D'accord. Quoi vous dire. Hein,
Et en ce qui concerne les indemnités d'assurance, ça s'est passé comment ? Il en reste à toucher ? Comment ça s'est passé ?
Oui, ben, disons ça, ce n'est pas encore au point, hein. Disons que il y a plusieurs personnes qui attendent justement encore, mais non, je ne sais pas si vous avez vu déjà les gens qui parlent là de la CULA dans les écoles, non.
Oui, j'ai vu encore, ça dans les écoles, oui.
Donc, non. Ce n'est pas encore.
Les indemnités ne sont pas terminées, quoi.
Non, ce n'est pas encore terminé, non.
Il y a eu des élections depuis, tant nationales. Alors, municipales, je ne sais pas s'il y a eu des élections, mais nationales, oui, ça je sais. Par exemple, est-ce que les mouvements style 5 étoiles ont eu plus de. Ont fait encore des meilleurs scores que dans le reste, que leur moyenne de l'Italie, disons, un peu par contestation de la gestion des.
Bah, au début, oui, je pense que. Non, au début, disons qu'il y a eu quelque chose, mais maintenant. Ça a baissé.
Ça a pris, oui, les gens s'occupent de.
Parce que, à part que les gens, ils n'ont plus, en général, hein, ils n'ont plus confiance. Les gens ont été beaucoup déçus.
Une autre question qui n'a rien à voir, comment ont réagi les enfants ?
Mais non, les enfants, disons, réagissent déjà beaucoup mieux que les adultes. Non, disons qu'ils ont.
Il n'y a pas de réaction particulière, quoi.
Non, puis bon, plusieurs, disons, ont été aidés aussi, disons par les psychologues. Il y a eu des psychologues.
Oui, qui sont intervenus, oui.
Oui, surtout à la CULA. Non, ils ont été très bien suivis. Il y a eu un centre vraiment exprès pour. pour les enfants qui ont subi des...
Eh bien, on va bientôt arrêter l'interview là. À moins, je vais vous demander de rajouter quelque chose qu'on n'aurait pas abordé, si quelque chose d'important pour vous.
Bon, disons que bon, quelque chose est en train de bouger. Quelque chose va repartir. Je répète, disons, bon, déjà à l'Aquila, l'autre jour, je suis allée faire, disons, un tour avec... des amis. J'ai vu que dans le centre, il y a plusieurs bars qui ont été réouverts, ainsi que quelques locaux pour les jeunes. Donc le samedi et le dimanche, il y a déjà plus d'animation.
Plus d'animation, oui.
Par rapport, disons, au début. Et dans la semaine, bon, dans la semaine, vous voyez quelques personnes, mais surtout les personnes qui souffrent de nostalgie. Les personnes qui vont dans leur lieu de... Comment dire,
de vie, leur lieu de vie.
Voilà. Et sinon, bon, je suis contente déjà que la banlieue, beaucoup de gens sont déjà repartis vivre dans leur maison. Il y a beaucoup d'immeubles qui ont été refaits, disons, en dehors du centre. Mmh. Donc, c'est positif. Ça, c'est positif. Bon, le centre, je répète, il faudra beaucoup de temps parce que c'est toujours point de vue financier, disons, la bureaucratie qui est lente. Bon, ben ça, je pense que...
Ça ne sera jamais fini, le centre.
Il faudra beaucoup d'années, hein, surtout pour le centre. Et c'est dommage parce que l'Aquila, c'était, pour nous, c'était, comment dire, maintenant, disons, il y a Pescara, mais l'Aquila, c'était vraiment, disons, nous étions à une vingtaine de kilomètres. Oui. C'était vraiment, voilà, pour les... C'est quand même...
Eh bien...
C'est mal au cœur.
Oui, voilà. Non, mais ça, c'est sûr. Même moi, la seule fois où je suis venu, j'étais me promener dans l'Aquila, c'était au mois de novembre, donc 2011, à 7h du matin. C'est poignant, on reste pas très longtemps.
Non, non, bah, surtout, je répète.
Surtout quand on l'a connu avant.
Bien, et ben Lina, merci.
D'accord.
Merci,
et
Lina.
Et une prochaine fois, au revoir.
D'accord, hein, au revoir.
Au revoir, merci beaucoup.
Au revoir, de rien.
Merci donc à Lina, merci à toi Serge pour l'interview et le contact, et puis merci à Laurent, hein,
qui surtout,
est
oui.
sur 97.1. Alors, avant de continuer, on va peut-être écouter un peu de musique. On va écouter un groupe, Il Trattoro, qui est un groupe à la limite des Abruzzes, la région d'à côté, Molise, puisque Abruzzes-Molise, c'est
pareil.
Une grande région au niveau, disons,
géographique
et administratif. Donc, qu'est-ce que c'est ? Pourquoi ce nom Trattoro ? Parce que c'était les anciennes voies, enfin toujours d'ailleurs, qui existent toujours, de transhumance, qui s'appelait Trattoro, et donc qui est un phénomène...
Les Abruzzes sont sillonnés de grandes drailles.
Absolument, qui sont la transhumance est quelque chose de très vivant encore en Abruzzes, puisque dans les Abruzzes, il y a même la transhumance du mouton, puisqu'on a aussi les loups des Abruzzes, on en parle souvent. Mais donc, c'est un pays de transhumance, et c'est Trattoro, qui s'appelle du même nom, aussi bien Molise qu'en dans les Pouilles, en Campanie ou dans la
d'ailleurs, Brousse. Il me semble, Trattoro, c'est le nom des drailles.
Absolument. Voilà. C'est le nom de ces voies de transhumance. Donc le groupe qu'on va entendre a pris ce nom par référence au territoire, on va dire. Et on va écouter un morceau. Tu parlais tout à l'heure de la réaction des enfants. Et ce morceau, Chichirinelle, a été en fait une comptine au départ, donc liée au monde de l'enfance, puis qui petit à petit est devenue tellement connue qu'elle est devenue une chanson à danser, une chanson de bal, puisque dans ces régions, on chante et danse sans arrêt, ce qui parfois peut aider d'ailleurs. Mmh. Donc on va écouter Chichirinelle par le groupe Il Trattoro avec Mauro Gioielli à la voix et aux castagnettes, puisqu'il y a des castagnettes, à Lino Miniscalco, pardon, à la Ciaramella, une sorte de cornemuse, Ivan Arruffo, l'accordéon diatonique et la guitare, et Enzo Miniscalco, qui joue aussi, on l'a vu tout à l'heure, mais qui joue aussi de la basse dans ce morceau avec Walter Santoro au tambourin. Thank you. Voilà, pour donner un peu d'optimisme à tout le monde. Enfin, Lina, je ne l'ai pas trouvé trop pessimiste,
oui,
quand même,
vrai.
J'ai l'impression.
Hein, oui. Pourtant, Barichiano, comme elle l'a dit, ça a dégusté. Hein.
Bien sûr, il y a ce problème du grand centre historique de L'Aquila, qui était une ville absolument superbe. Alors, on met la lenteur bureaucratique, il y a aussi, c'est un centre historique, avec tout ce que ça comporte, d'avis différents, sans doute.
Sur la reconstruction.
Voilà, alors...
J'ai rassemblé quelques événements qui sont passés à L'Aquila depuis, des événements importants. Alors déjà, en juillet 2009, il y a eu, alors je ne sais pas s'il faut parler de réunion du G8 ou de grand show médiatique, peut-être plus un grand show médiatique. Donc il y avait une réunion du G8 qui devait se passer en Italie, je ne me rappelle plus où, et Berlusconi l'a déplacé à L'Aquila.
Mais c'est le gars dont on parlait tout à
l'heure.
Voilà,
c'est ça. Et
Donc là, c'est vrai que ça avait été mal pris à l'époque parce que y avait tout un tas d'argent dépensé et qui n'était pas dans la reconstruction. En 2010...
Elle était dans la construction de l'Europe.
Dans la construction d'Europe, oui. Au mois d'octobre 2010, il y avait encore 3100 personnes qui étaient hébergées dans des structures collectives. Et alors, quelque chose moi qui m'a étonné, mais c'est une réflexion tout à fait personnelle, un procès en 2012 sur les experts, les scientifiques, qui ont eu 6 mois de prison, alors je ne sais pas si c'est avec sursis ou sans sursis, pour homicide par imprudence, parce qu'ils n'avaient pas prévu le tremblement de terre. C'est vrai qu'ils s'étaient réunis à l'Aquila quelques jours avant, et ils avaient dit en gros « va bene ». Et le tribunal a été plus loin que le parquet qui ne demandait que 4 ans de prison. Alors je ne sais pas si ça a été, s'ils l'ont fait ou pas, mais comme un tremblement de terre, c'est quasiment imprévisible, je trouve que c'est un peu curieux d'aller faire un procès aux experts. Un point vraiment positif, en 2013, il y a une famille, la famille Nicola, qui sont des restaurateurs d'art, qui habitent dans l'Italie du Nord, qui ont lancé une campagne pour restaurer et préserver les œuvres d'art. Et eux, ils en ont restauré gratuitement, puisque c'est leur métier. Donc c'est assez...
C'est une famille à reciter, parce que c'est admirable.
Voilà, c'est admirable quand même.
Famille Nicola.
Nicola. Et le 8 janvier 2014, le parquet a ordonné la mise sous enquête de 8 personnes, dont 4 ont été assignées à résidence. L'une d'elles n'est autre que Roberto Riga, le maire adjoint, qui a présenté sa démission, en gros pour des questions de corruption lors de travaux. Soupçonné, bien sûr. Hein. Alors, dans la foulée, le maire de l'Aquila a démissionné, puis il a repris sa démission quelques jours plus tard. Alors, le coût des travaux, j'ai regardé un petit peu sur Internet, ça va de 3,2 milliards, ça me paraît très précis, qui ont déjà été dépensés. On voit que c'est parfois le quart, le dixième, la moitié. Je crois que le chiffrage n'est absolument pas établi.
Chiffrage définitif.
Et puis, je ne vois pas comment on peut l'établir.
Ah oui, non, puisqu'on n'a pas d'idée encore de certains des travaux, j'imagine.
Et quand j'étais donc allé en novembre 2011 en discutant avec des gens de l'Aquila, certains m'avaient dit, mais il faudra 30 ans. Enfin, ils ne l'évaluaient pas, bien sûr, mais pour...
Une génération.
Pour dire, voilà, que c'est situer ça dans la génération... Et en fin de compte, c'est pour dire, est-ce que ce sera reconstructible ?
Bon, elle a l'air de sembler dire que oui, et par contre, plus réservée sur les centres historiques, effectivement.
Oui, oui. Voilà, bon, l'Aquila.
On écoute une autre chanson, toujours.
Exactement.
Du groupe
Trattoro. Exactement, puis on fera un petit point l'année prochaine.
Voilà, alors toujours... Mais en fait, c'est bien de le faire, parce qu'on... C'est bien d'avoir voulu le faire, parce qu'on entend, comme souvent, malheureusement, dans tous ces genres de désastres, on en entend beaucoup parler pendant quelques mois, puis plus du tout.
Voilà.
Après.
Et puis, j'avais été tellement bien reçu par ces gens de Navelli que... C'est pour ça que l'idée m'est venue.
Ben, c'est bien. Donc, on va écouter de nouveau le groupe Trattoro avec Mauro Gioielli et Ivana Ruffo à la voix. Et le morceau qu'on entend s'appelle Brigante Maligno. Maligno, c'était en fait le surnom de Sabatino Lombardi, qui était un brigand fort célèbre dans cette région. Cette chanson, elle est bâtie sur ces chansons de rue très répandues en Italie, avec des parties chantées et puis des parties comptées. Et là, donc, c'est un chant que l'on va entendre tout de suite. Et Maligno, alors qu'est-ce qu'elle dit, la chanson Curatolo? Curatolo, c'est celui qui gère les biens des propriétaires, des bestiaux. Et donc, on parle de ce curatoro et de les deux personnages, c'est le curatoro et le valano et Maligno. Maligno, donc, on a dit qui il était. Le curatoro, c'est celui qui gère les biens, encore une fois, des propriétaires de bestiaux. Et valano, c'est celui qui s'occupe de ses troupeaux. Donc c'est un dialogue à trois, si je puis dire.
Questa è la storia di Sabatino Maligno, Brianda Lumatese alla Rocca Pastore.
Oi valana, oi valana, figlie bove valu confine, la ce trova una buona chianura, de briante n'ave paura, de briante n'ave paura.
Oi curatele, oi curatele, in un porto li muova confine, la ce sta brigante maligna, cata caccia fucile curtile, cata caccia fucile curtile.
Oi balana, oi balana, perché porta li bestia a chianura, se li vova fai pasculare, dieci vacche mai a dare, dieci vacche mai a dare.
Bestia che porta chianura, roba mea non ce so, e non te la posso dare,
e non te la posso dare. Curatela, uè, curatela, ci manda tua la cupina. Curatela, uè, curatela, ci manda tua la cupina. La ci sta brigando maligna che hai cacciato fucile cutina. La ci sta brigando maligna che hai cacciato fucile cutina. Brigante, uè briganda, che t'è stata l'ultima moda. O brigante, uè briganda, che t'è stata l'ultima moda. Scappando da la rocca, ci buttate cucina sta giocca. Scappando da la rocca, ci buttate cucina sta giocca. Accustino curatolo, chiamate risultato e la mannata romatese. Là c'è stava nelle briande che le stavano aspettando. Pugnale, fucile, curtiglie, tante muriettene, tante soldate e tante briande. E fra tante murette burro briande dalla rocca, Sabatino Maligno.
Voilà l'histoire de ce brigand maligne. Alors Serge, on avait évoqué tout à l'heure la fête de la Résistance. Tu voulais nous en redire deux mots ?
Voilà, parce que le 25 avril, donc, pour préparer cette émission, je me suis aperçu, qu'est-ce que c'est comme date anniversaire ? Est-ce que c'est la libération de l'Italie, la fin de la guerre ? Est-ce que c'est le 25 avril ? Et donc, mes interrogations tournaient autour de ces questions. Donc, j'ai repris quelques éléments, en commençant par le 8 septembre 1943, qui est l'armistice entre l'Italie et les Alliés. Et après, les Alliés sont remontés vers le nord, quasiment, si on fait un résumé assez court, à la poursuite des Allemands. Et en gros, le plan prévoyait de terminer tout ça en décembre 1943. Et une parenthèse avec un lien au mois de septembre 1943, Mussolini, qui était enfermé dans les Abruzzes, dans un hôtel au Grand Sasso, a été enlevé et libéré par des parachutistes allemands.
Donc après, il a fait cette république fasciste qu'on appelle République de Salo, qui est à côté de Brescia. Et en septembre 1943, donc toujours, il y a eu 4 journées à Naples. Alors où c'était, ça me paraît, vu de l'extérieur, assez important, puisque là, c'est surtout les habitants et les partisans qui ont mené l'occupation. Donc les plans pour terminer tout ça dans l'hiver 43, bah, ça n'a pas pu se faire et il a fallu attendre le printemps 44 où les Alliés ont repris l'offensive. Et pour rentrer dans Rome en juin 44. Donc des villes du nord commencent à être libérées en avril 45.
C'est suite à un appel du comité de libération du nord de l'Italie, hein, qui avait été le comité de libération nationale du nord de l'Italie, en fait, de la Haute-Italie, qui avait lancé une sorte d'appel à la rébellion, hein, avec Luigi Longo, Sereni, Valiani et Sandro Pertini, qui est devenu après président de la République.
Ah oui.
Ils avaient lancé un appel par la radio le 8 au matin. Voilà, puis ils avaient proclamé officiellement l'insurrection.
Donc à partir du début avril, on voit que plus rien ne peut arrêter les Alliés dans la reconquête du nord de l'Italie. Et toute résistance des Allemands est assez vaine. Et alors, les Allemands donc capitulent le 29 avril. Et la reddition prend effet le 2 mai.
Exact.
Et donc le 25 avril, j'ai compris que c'était la libération de Milan et Turin.
Et de Turin, tout à fait.
Voilà.
C'est les deux premières, après il y a Bologne.
C'est là que voilà. le régime fasciste s'est arrêté.
Absolument.
Hein. Alors, le 25 avril donc, de cette année, Mediapart titrait 25 avril anniversaire de la libération de l'Italie. Donc c'est en gros le 25 avril qui marque plus la libération du fascisme que la fin de la guerre.
Voilà, même si les deux en une semaine étaient
très courts, quasiment voilà. Concomitants, mais c'est en réalité c'est
on
presque le 2 mai,
ça,
quoi. Voilà,
hein.
Voilà, c'est ça qui m'a un peu interpellé sur la nécessité d'évoquer cette date.
Voilà, ben merci Serge. Donc vous êtes bien sur 97.1, Couleur FM. Et on va finir cette émission par une chanson qui s'appelle Il Partigiano, le partisan, dont l'auteur est anonyme, qui dit en gros le partisan n'a aucune plume, au contraire du chasseur alpin et du bersagliere. Et il est là-haut sur les montagnes pour combattre. Là-haut, la neige arrive et la tourmente de l'hiver. Mais même si l'enfer venait, le partisan resterait là-haut. Quand il est marchant sur la neige, le partisan entre en action. Et quand il est blessé, ne le pleurez pas, car si quelqu'un est libre, si quelqu'un meurt libre, il n'y a pas d'importance de mourir. Autant dire, mourir n'est rien si on meurt libre. Voilà. Il partigiano. Et au revoir à tous les auditeurs de Couleur FM, à la prochaine émission.
Au revoir, le mois prochain.
Et bonne soirée, bon week-end, bonne semaine, bon mois à tous. Au revoir Laurent.
Il bersagliere a 100 penne, l'alpino che ha una sola, il partigiano. Grazie. su, ma se venisse anche l'inferno, il partigian rimane lassù. Quando scende la notte scura, tutti dormono laggiù alla pieve, ma camminando sopra la neve, il partigiano scende in azione. Ma camminando sopra la neve, il partigiano scende in azione.
Se libero un uomo muore, che cosa importa di morire?